Bonjour, je suis content de vous voir aujourd'hui. J'espère que le Seigneur vous guide dans vos pensées et que ces moments ensemble soient un moment béni et pas un moment de distraction de lui. J'ai demandé à mon ami Jonaël de nous diriger dans une lecture. Tu peux te présenter devant pour que tout le monde puisse t'entendre. Oui, merci.
Jean, chapitre 10, les versets 1 à 21, dans la version Louis II. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, et le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Mais pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?»
Je disais tout à l'heure, j'espère que ce moment ne soit pas un moment de distraction pour vous. Et je dis d'ailleurs pour moi aussi. Et je voudrais revenir sur le premier verset qu'on trouve dans le psaume 23. Là, il a dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » On peut facilement être distrait dans notre vie quotidienne, dans nos vies toujours. Et quand on lit ce verset, quand on pense à ce verset, Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça peut soulever des questions, mais alors est-ce que le Seigneur est mon berger? Deuxièmement, il dit le Seigneur est mon berger, donc je ne manquerai rien. Donc, à la fois, peut-être on peut se poser des questions, est-ce que je suis engagé avec le Seigneur? Peut-être on peut dire oui, mais après on commence à faire l'analyse de l'autre côté, on me dit, mais parfois peut-être je manque quelque chose. Peut-être c'est des doutes qui se passent dans nos vies. On commence à analyser des choses dans nos vies, que ce soit peut-être des questions de choses spirituelles, des choses matérielles, ou des choses qui nous embêtent dans la vie. Est-ce qu'il y a des choses qui nous distraient? Moi, je dis bien sûr que oui. Il y a des choses qui créent des distractions, qui attirent notre attention, de ne pas accepter, de ne pas y réfléchir, ou même de ne pas regarder dans le bon sens des choses. Je vais donner une petite préparation de ces versets que je vais utiliser comme notre guide aujourd'hui de réflexion. Dans le premier, à partir du chapitre 5 de Jean, il a commencé d'avoir beaucoup de discussions et chaque chapitre après, suivant, jusqu'à chapitre 10, il y avait des discussions avec des religieux du temple, des pharisiens, des sadduciens, des pouvoirs publics, d'autres personnes, même le peuple, qui disputaient, qui étaient divisés entre eux vis-à-vis leur engagement avec Dieu. Jésus même, il a soulevé, même vrai, d'une façon pointue, des expressions en disant aux religieux, en disant, mais là, vous ne connaissez pas vraiment Dieu, vous ne croyez pas vraiment en Dieu, vous dites des mensonges comme le diable qui est votre père même. C'est des phrases vraiment dans votre figure, quoi. Vraiment qui peut contrarier tout le monde. Surtout pour ceux qui cherchent d'être très religieux devant le public, qui pensaient qu'ils étaient bien droits dans leur réflexion, et puis d'un coup, quelqu'un dit, mais alors là, vous êtes simplement un instrument de diable. Peut-être ça peut arriver pour nous parfois, vous vous souvenez l'histoire de Pierre, quand Jésus a commencé de prononcer l'idée d'aller mourir, de retourner à Jérusalem, et pour mourir, Pierre, il a dit non, ça va pas arriver comme ça, je vais te protéger. Vous vous souvenez, Jésus a dit, derrière moi, Satan. Donc la question, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je voudrais, à partir de verset 1 du chapitre 10, de nous diriger dans une certaine réflexion peut-être que le Seigneur peut utiliser pour vous guider dans vos prières et dans vos réflexions aussi. Dans le verset, la version que nous venons de lire, il y a dans le grec d'origine, la langue d'origine de l'écriture, le semeur dit, vraiment, je vous l'assure. Louis II dit, en vérité, cette phrase-là était préparée pour nous tous, de tirer l'attention des gens pour dire, attention, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose que je voudrais que vous écoutiez. J'ai quelque chose que je voudrais partager avec vous, peut-être, qui concerne l'avenir ou le passé ou le présent. J'ai quelque chose à vous dire pour clarifier ce qui se passe. Et c'est ça, toute cette accumulation de ces chapitres, des événements avant, Jésus est en train de dire, en vérité, nous sommes arrivés sur un point. Il faut que je dise quelque chose de particulier. Il faut que je corrige certaines erreurs, peut-être de pensée, d'irréflexion, d'action. Donc, écoutez-moi, Jésus est en train de nous dire. Et même il est en train de dire que, en vérité, ce que j'allais vous dire, c'est quelque chose d'important où votre vie dépend, soit sur la mort ou la vie. C'est à vous de choisir. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si on manque de quelque chose parfois dans notre vie, si on manque la joie dans notre vie parfois, peut-être c'est le fait que c'est vrai, nous sommes trop penchés sur la chose. Dieu ne veut pas qu'on regarde trop, qu'on se tâche pas trop. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à vivre non plus. En vérité, Jésus, il commence à dire, d'après mon analyse des choses, Jésus peut dire, il y a des voleurs, il y a des brigands parmi vous. Il y a ceux qui veulent enlever, qui veulent détruire le peuple de Dieu, les brebis, le troupeau de Dieu. Il y a ceux qui veulent séduire le troupeau de Dieu et les emmener ailleurs, sur un autre chemin. Les voleurs et les brigands sont venus pour semer les confusions, des doutes, des distractions. Nous avons peut-être tous vécu certaines déceptions dans nos vies, soit les pensées ou des personnes ou les idées sur lesquelles on a adhéré, et puis d'un coup, tout est parti en l'air comme ça. L'Ancien Testament nous avertit quand même sur la richesse. Ne fais pas trop attention de garder les richesses parce que les richesses peuvent prendre le vol comme les ailes de l'aigle pour s'envoler comme ça. On pense qu'on est en contrôle des choses autour de notre vie. Mais il peut très bien prendre fuite et s'envoler ailleurs. Après le verset 5 jusqu'à 10, nous voyons que Jésus est en train, surtout peut-être pour viser les dirigeants religieux, les prêtres, les pharisiens, les sadduciens, les chefs politiques, les rois, les biens des chefs dirigés par les hommes finalement. Tout ce qui Jésus est en train de nous signaler, faire attention de tous ceux qui peuvent vous détourner, le peuple de Dieu, de ne pas suivre Jésus. Je crois que ça, c'est quelque chose de nos jours qui est réel. Il y a beaucoup de monde qui cherche beaucoup des idées de philosophie ou des idées de méditation, des idées de chercher dans l'accumulation des affaires dans le monde. On entend souvent, nous vivons dans un monde de consommation. On cherche encore des choses à acheter, des choses à faire. On trouve de nouvelles trucs la semaine suivante. D'un coup, on sait que, par exemple, la compagnie d'ordinateurs Macintosh, ils ont fait sortir leur iPad. Bon, d'après, c'est sorti, quelques mois après, tout le monde, toutes les autres compagnies ont commencé à sortir le même truc, la même sorte de machin, je ne sais pas comment on peut le dire quoi en français, mais bon, il faut s'amuser quoi. À la fois, on s'amuse avec, on travaille avec, mais bon, vous voyez, ça nous attire en disant, mais si vous voulez vraiment être à point dans votre vie, il faut avoir un autre... Jouer, c'est le box, comment dire, de sonner, c'est le box de jouer des enfants, c'est le... J'entends pas. PlayStation, voilà. Bon, les jeux des enfants, vous savez, on s'adapte avec des idées de procéder des choses, ça nous donne la vie. Je me souviens, mon grand-père, il m'a raconté une fois, il a dit, ah, c'est bien d'avoir une nouvelle voiture. Et vous allez prendre soin, le serrer, que ça soit propre, gardez bien. Mais un de ces jours, il y aura le premier coup. Après là, il n'est plus nouvelle. Et c'est vrai. C'est vrai, j'ai vécu ça plusieurs reprises dans ma vie. Donc il ne faut pas attendre que les nouvelles choses nous offrent la joie et la paix dans notre vie. Au contraire, parfois, il ajoute des choses sur lesquelles on commence à y réfléchir, de prendre soin, qui nous préoccupe. De plus en plus on a, de plus en plus on est préoccupé avec des choses. Donc il y a ce que Jésus a prononcé qui tire notre attention loin de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur. Il y a aussi le mercenaire, celui qui travaille pour de l'argent, celui qui tire simplement leur intérêt de gagner le salaire. Vous savez, parfois, on entre dans les magasins, on trouve les gens qui sont en train de regarder le montre, alors, je commence à quelle heure, là? Et leur intérêt, c'est plutôt pour terminer l'heure, c'est pas pour terminer le travail. Peut-être ça nous arrive aussi. Mais les gens qui font le boulot simplement pour gagner de l'argent, Jésus est en train de dire, mais il y en a ceux qui gardent leur œuvre dans le temple, il y en a ceux qui gardent leur œuvre dans les religions, simplement pour gagner leur argent. Il ne se concerne pas avec la vie du brebis. Nous voyons même à travers les expériences de Jésus dans les chapitres 9 et 8, où Jésus a guéri l'aveugle, les dirigeants de l'Église se précipitaient sur le fait que Jésus l'a fait. On ne connaissait même pas qui c'était Jésus. Comment se s'interroger qui était Jésus? Mais ils étaient plus intéressés du fait que Jésus a fait les guérisons le jour du sabbat. Ils sont fichés du fait qu'il était guérison. Ils ignoraient quand même que l'enseignement de Dieu dirigeait le fait de penser que c'est Dieu seul qui donne les guérisons. Mais les religieux, dans ce moment-là, ils ont ignoré le fait que l'homme était guéri. Jusqu'à un tel point qu'on l'a mis à la porte du temple, parce que l'œuvre était faite le jour du sabbat. Après dire tous, Jésus a dit, en vérité, les choses qui n'emmènent pas les gens à Dieu, faire attention, faire attention. Je ne suis pas là pour critiquer la vie quotidienne, mais je suis là pour nous attirer notre attention, pour nous dire, faire attention qu'on ne commence pas d'imaginer que l'éducation, l'idée d'avoir des possessions, que le monde nous dit que ça nous rend la vie heureuse. Ça, c'est les choses de vivre avec, mais ce n'est pas les choses qui nous rendent heureuses. Heureux. Donc, Jésus a dit, en vérité, il y a des gens, il y a des expériences, il y a des choses qui peuvent attirer notre attention, de nous séduire, de nous diviser, de nous contrarier dans notre foi, dans notre démarche spirituelle. Ça, c'est la vérité. Jésus a dit, deuxièmement, en vérité, je suis la porte. À vrai dire, la porte, il y a deux fonctions différentes. Premièrement, la porte peut être ouverte, comme un passage pour entrer, pour sortir. Jésus est en train de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est en train de dire, bien que vous dites que vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en moi, il y a quelque chose qui marche pas là, quelque chose qui cloche. C'est pas la vérité. Vous ne pouvez pas que vous croyez en Jésus et de ne pas croire en Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu et de ne pas croire en Jésus. Les deux vont de soi. Jésus est en train de dire, je suis la porte. Avant l'ouverture de la porte en Jésus, la vie était nulle, la vie était rien. Actuellement, je vois une grande parallèle où Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a beaucoup de ressemblances de l'idée de la nouvelle naissance en Jésus et la création du monde. Au moment de la création du monde en Genèse, il dit que le monde était noir et vide, il n'y avait rien. Je crois que finalement, c'est une description de ce qui se passe dans le cœur de ceux qui ne croient pas, qui ne connaissent pas Dieu. Leur vie est vide. Leur vie spirituelle n'existe pas. Ils sont morts. Mais quand ils viennent à Dieu en Jésus-Christ, voilà le commencement de la lumière dans leur vie. Voilà l'illumination qui arrive, qui commence, leur donne le pouvoir de lire et de comprendre et de saisir le vrai sens de la vie. Le vrai sens de la vie n'existe pas simplement ici-bas, mais dans la présence de Dieu. Jésus a dit, « Je suis la porte. » C'est un passage pour nous d'entrer, même dix passages d'entrer, de sortir en communication avec Dieu en Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis la porte. » Aussi, il a dit, la porte pour faire entrer dans l'enclos avec les brebis. Si vous êtes croyant en Dieu, en Jésus-Christ aujourd'hui, si vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, vous pouvez, j'en suis sûr, moi j'ai fait la même expérience, vous pouvez aller dans tous les pays du monde et vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui croient en Jésus et d'un coup, il y a une sensibilité, il y a un raisonnement d'un accord de l'esprit des croyants entre croyants, même si on ne comprend pas le même langage. Si même il faut une traduction. J'ai expérimenté ça en Ukraine. J'ai expérimenté ça dans d'autres pays où les chrétiens donnent le témoignage. On se rend compte qu'il y a un esprit qui tourne, il y a un esprit qui communique entre les uns et les autres, pour ceux qui sont en Christ. On est dans la famille de Dieu, n'importe où on est. Si on se trouve, comme Jésus a dit, deux ou trois personnes en mon nom, là, je suis au milieu d'eux. Mais aussi, la porte nous sert comme un passage de sortir. L'idée de liberté. En Jésus-Christ, nous avons la liberté de vivre notre vie. On n'est pas obligé de vivre dans la crainte de faire une erreur contre la loi, parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on garde toute la loi. Strictement, on est sauvé par la grâce de Dieu. Et en Jésus-Christ, nous avons la liberté de marcher, de prendre la décision, d'exercer notre foi en Jésus-Christ quotidiennement. Oui, Jésus, c'est la porte ouverte qui nous donne la liberté de choisir, de trouver notre place dans notre vie. Il y a aussi quelque chose d'important dans la première partie de ce verset qu'on vient de lire tout à l'heure. Jésus a dit un petit peu, je suis la porte, mais le gardien me donne le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Cet gardien, c'est Dieu. Cet gardien qui donne le pouvoir à Jésus, c'est Dieu. Et c'est ça que ça revient sur l'argument des pharisiens, des sadduciens, des dirigeants du temple de Dieu. qui disaient, oui, mais Dieu, on croit dans la loi de Moïse, on croit en Dieu, mais toi, qui es-tu? Ils ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu, comme celui qui œuvrait pour Dieu. Et Jésus est en train de dire, c'est Dieu même qui me donne le pouvoir de faire ce que je fais. Je crois que c'est quelque chose d'important pour nous aussi, en tant que brebis. Jésus a dit, on peut sortir et on peut rentrer pour trouver le pâturage. Je crois que Jésus nous donne la liberté de le suivre dehors, d'aller dehors, d'être dans l'enclos de brebis, mais en même temps, on peut aller dans le monde, pas pour vivre comme le monde, mais de vivre parmi des autres. Dieu n'est pas là pour surveiller tout instant de notre vie, pour nous taper dessus. Le bon berger n'est pas là pour nous fermer dans une boîte, pour nous surveiller à tout instant, sans avoir la permission de faire quoi que ce soit. Parfois, la porte peut être fermée. Il y a ceux qui ont étudié l'histoire de bergers dans le passé. Et souvent, la porte, ce n'est pas vraiment un morceau de bois comme ça qui ferme sur les charniers. Mais c'est une ouverture. Et le berger de l'enclos, il s'assit dans l'entrée pour surveiller que les brebis ne sortent pas ou les brebis ne rentrent pas, qui n'est pas le sien. Je crois que c'est quelque chose de très important pour nous de veiller à ce que nous écoutons le berger, que nous soyons attentifs d'entendre. Nous avons entendu la semaine dernière à le retraite spirituelle, de vérifier les esprits. Les gens peuvent dire beaucoup de choses, mais vérifier l'esprit, laisse l'esprit de Dieu nous parler dans notre cœur, de nous donner la vérité à suivre, et peut-être même de juger l'esprit de celui qui parle. Donc la porte peut être fermée. Ça m'a fait réfléchir de l'histoire qui se trouve en Matthieu chapitre 25, verset 10, l'histoire des 10 vierges qui attendaient le mariage, qui est un symbole de Jésus qui va revenir pour récupérer son épouse, l'Église. Vous vous souvenez de cette histoire, c'est que les 10 vierges attendent l'arrivée du marié. Il y en avait 5 qui avaient suffisamment d'huile d'attendre. Ils étaient préparés de recevoir le marié quand ils arrivent. Mais il y avait 5 aussi qui n'avaient pas suffisamment d'huile. Il commençait à faire nuit. Le marié attend, ils attendent. Finalement, le moment d'arriver, leur lampe ne tenait plus en flamme. Il fallait qu'ils partent pour chercher de l'huile. Et en revenant pour célébrer le mariage, vous vous souvenez ce qui se passait? La portière lui dit, « Ah, vous ne pouvez pas entrer. La porte s'est fermée. C'est trop tard. » Frères et sœurs, je crois que c'est quelque chose qui nous signale d'écouter le berger. Suivre l'enseignement du berger. Laisse le berger nous garder, de nous diriger dans notre vie. La porte peut être fermée parfois. Il ne faut pas attendre selon notre propre gré le moment pour se donner à Dieu. Même pour nous qui suivons le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur nous appelle d'y réfléchir, de ne pas attendre demain de faire la volonté de Dieu aujourd'hui, mais de le faire tout de suite. Finalement, Jésus dit, en vérité, je suis le bon berger. Et Jésus commence peut-être de donner les qualifications. Qu'est-ce que ça veut dire le bon berger? On a déjà lu dans le psaume 23 une description de paix, de joie, de direction, de certitude, de présence du berger. Ça, c'est déjà quelque chose. En plus que ça, Jésus a dit, « Mais moi, je suis le berger et je donne ma vie. » Ça, peut-être ça peut nous donner des réflexions de quelle est la différence entre le propriétaire et l'employeur, employé, dans un magasin, par exemple. Le propriétaire, c'est lui qui a beaucoup investi sa vie, son argent, son temps. Il veut bien retirer un profit, donc il s'en occupe comme il faut. J'ai vu, j'étais dans un magasin un jour, un restaurant, et j'ai vu, évidemment, c'était un employé qui passait. Il avait une petite pelle, quelque chose qui ramasse des papiers. Il n'était pas même pas obligé de baisser trop hein, pour ramasser le papier par terre, des choses, pour que le lieu soit propre. Mais j'ai remarqué qu'il a laissé passer un tout petit bout de papier. C'était juste devant lui, c'était là, blanc. C'était pas, il n'y a pas de camouflage, hein. C'était tout blanc par rapport du sol. Mais lui, il faisait semblant d'abord, il faut dire, comme il ne voulait pas vraiment le faire. Alors là, ça c'est, qui veut balayer le plancher là? C'est pas intéressant parfois, n'est-ce pas? Bon, lui, il faisait comme ça, faire son travail comme ça, et puis il est parti. C'était quelques minutes plus tard, j'ai vu quelqu'un d'autre qui venait, il y avait une cravate, chemise blanche, des pantalons, bon, bien correct, tout ça, si vous voulez. Il marchait comme ça, et hop, il marchait tout droit sur le bout de papier, il a pris comme ça. Il est allé, mis dans la poubelle, comme ça. Et je me suis dit, voilà le chef. Il se concerne avec son propriété. Il se concerne avec le business. Bon, il se concerne pour lui-même, ça c'est sûr. Jésus a dit, je suis le bon berger, et un des premiers signes de bon berger, c'est qu'il donne sa vie. Vous êtes membre de l'Église ou non? Vous donnez votre vie? Ou est-ce qu'on vient de temps en temps, comme ça? Ça demande parfois un engagement pour ceux qui veulent vraiment faire le travail du Seigneur, de s'engager. C'est une grande tentation parfois, vous savez, de ne pas s'engager. Mais si on est engagé, si on est propriétaire, on s'en occupe de notre vie. On s'en occupe de ma vie. On s'en occupe de la vie des autres quand on est membre de la famille de Dieu. J'ai entendu dire souvent des gens qui entrent dans les disputes. J'entendais un gars quand j'étais jeune. Il y avait un gars qui disait quelque chose après le frère de quelqu'un d'autre. Et celui qui était le frère qui écoutait la critique de son frère lui dit, écoute, moi je peux critiquer mon frère, mais toi tu ne peux pas. Ça fait la famille. On prend soin des uns des autres et on suit l'exemple du bon berger. Jésus a dit, le propriétaire, je connais mes brebis et mes brebis me suivent. Il connaît le produit. Combien de fois je suis allé dans un magasin, il y a des personnes que je demande, alors je cherche une telle, oh, j'en sais rien, je ne peux pas vous aider. Et puis hop, je tombe sur le propriétaire ou quelqu'un qui était là depuis longtemps, qui garde quand même le travail sérieusement. Oh oui, je peux vous servir, je peux vous emmener. Donc, il m'emmène dans le magasin pour chercher quelque chose. C'est la même chose pour nous, n'est-ce pas? Quand on connaît Jésus, quand on connaît le frère, quand on connaît le brebis, On veut emmener les uns les autres plus loin dans la foi. On veut aider les uns les autres de prendre soin des uns des autres. Dieu prête attention à nous parce que c'est lui le propriétaire, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait bien ce qui se passe pour nous, ce qu'il nous faut pour nous protéger, ce qu'il nous faut pour nous aider à grandir. Parfois, on demande à Dieu, le psaume dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si on manque quelque chose, je peux vous dire peut-être que c'est une erreur de le demander. Peut-être Dieu ne veut pas en vous le donner maintenant parce que c'est le mauvais moment. Donc il faut attendre. Parfois on demande les choses de Dieu tout de suite pour nous rendre plaisir. Dieu dit non, attends. Je vous le donne plus tard ou je ne vous le donne pas. En vérité, Jésus a dit, je suis le bon berger, je vous donne le droit de passage, pas d'autre. C'est moi qui vous donne le droit de passage, pas d'autre. Pas d'autre façon de penser, ce n'est pas des philosophies, ce n'est pas d'autres idoles, ce n'est pas d'autres dieux, c'est Jésus-Christ et lui seul. C'est Jésus qui rend témoignage à son Père. Voilà une clé très importante. Jésus rend témoignage à son Père. Jésus ne rend pas vraiment témoignage à lui-même. Il a dit toujours, je fais les guérisons, je donne l'enseignement, je fais la volonté de mon Père. Combien de fois Jésus a dit ça? Comment on peut connaître? Ça m'a beaucoup réfléchi cette semaine. L'idée que M. Wilkinson l'a donnée la semaine dernière dans le retraite spirituelle. Vous vous souvenez l'histoire de... Il a dit la personne qu'il connaissait qui travaille dans la Banque de France. Il est en train de compter le billet comme ça, mais très rapidement. Il lui a posé la question, mais comment savez-vous le mauvais billet? Le faux billet dans un paquet comme ça. Vous vous souvenez la réponse qu'il a donnée? Quelqu'un? Répétez.
Je sais reconnaître le vrai.
Voilà. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, vous savez. Nous, on passe beaucoup de temps peut-être en cherchant les choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, en tournant en rond parfois. Oh, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. Dieu est en train de nous dire, ne faites pas attention des dangers, des choses qu'il ne faut pas faire. Faire attention des choses qu'il faut faire. Et quand les choses qu'il ne faut pas faire arrivent, vous connaîtrez. Et c'est ça qu'il voulait dire. À mon avis, c'est ça que Jésus voulait dire. Alors, si on veut suivre Jésus dans le sens positif. N'attends pas d'enlever des choses complètement négatives toujours dans notre vie. Je ne dis pas de garder les choses comme ça, mais je dis faire attention qu'on saisit la parole du Seigneur, connaître Dieu. Jésus est en train de dire aux dirigeants religieux, vous faites une grande erreur parce que vous croyez, vous êtes religieux. Vous pensez, vous croyez en Dieu, mais le problème, si vous croyez en Dieu, vous croyez en moi aussi parce que moi je suis la continuation de révélation de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu et de renier la vérité de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas. Donc c'est le droit de passage. Même l'apôtre Paul, combien de fois dans ce verset, en ouvrant les versets dans les épîtres, il disait, moi, Paul, apôtre de Dieu et Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Paul, il a toujours fait ligne de référence. de retour vers Dieu. Et je crois que ça, c'est très important. Bien aussi, nous voyons la communion que nous puissions avoir. En Révélation chapitre 3, verset 23, Jean donne une citation de verset de paroles de Jésus en disant, c'est Jésus qui parlait, « Je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est l'ancien conseil, n'est-ce pas? Je souperai avec lui. Je mangerai avec lui, je partage avec lui le repas, je partage le moment avec lui. Écoutez, Dieu ne nous appelle pas de regarder une idole qui ne dit rien de tout. On a Habakkuk, dans l'Ancien Testament, il a cité le fait que beaucoup de gens, ils ont fabriqué des idoles en bois, en ferraille, même plaquées d'or ou de l'argent. Mais Dieu a dit, mais ils sont sourds, ils ne bougent pas, ils ne donnent pas des réflexions de retour. Par contre, l'Esprit de Dieu nous dirige. L'Esprit de Dieu nous parle dans notre cœur à travers sa vérité. Finalement, Jésus dit, je suis le bon berger. Ça veut dire, je suis le seul berger. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui veut chercher partout parfois des idées de construire, de fabriquer, de montrer d'autres dieux, de nous montrer d'autres dieux, d'autres enseignements. Et c'est par là l'importance de l'Esprit de Dieu d'agir en nous. Quand le psalmiste dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne pense pas qu'il est en train de se moquer de Dieu, mais je crois qu'il est en train de dire « Il y a un niveau de vie qui est plus important que notre vie humaine. » Dieu nous dirige, Dieu nous tire vers le haut. Dieu veut nous élever sur un niveau d'existence au-delà de toutes ces choses qui peuvent nous concerner dans notre vie quotidienne. Et il n'a pas ignoré la difficulté quand il a dit « Malgré je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je ne crains aucun mal. » Ce n'est pas le fait que Saint-Louis fait pas mal. Mais c'est le fait que quand on vit avec Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas ces choses-là qui nous font craindre. Quand on est en Jésus-Christ, quand on admet nos péchés devant le Seigneur, quand on admet nos péchés, quand on confesse nos péchés devant le Seigneur, devant les autres croyants, quand on dit « Je suis pécheur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus qui me sauve de mes désirs, de me vivre toute seule en moi-même. » Quand on confesse ça devant les autres, quand on passe dans les eaux du baptême comme une image de témoigner de notre engagement dans la mort et la résurrection, de s'identifier dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on n'a plus rien à craindre. On n'a plus rien à craindre. Oui, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Prions, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te demande pendant ces instants que tu parles à notre cœur, Seigneur. Tu te révèles à nous, Seigneur, chacun de nous. Nous sommes tes brebis où nous devons y être. Nous sommes ta création, Seigneur. Tu veux nous sauver de nous-mêmes, de notre péché, de nos péchés. Seigneur, je crie envers toi maintenant pour te demander de nous bénir de ta présence, de ton Esprit Saint, que tu peux travailler dans le cœur de chaque personne présente, Seigneur, qu'il sache où il se trouve devant toi, qu'il ne peut plus renier une décision prise devant toi pour dire oui, pour dire non, mais qu'il sache, Seigneur, où il se trouve. Seigneur, tu te clarifies, tu te révèles à eux, Seigneur, et tu clarifies toutes choses dans nos pensées, dans nos idées. Que nous puissions te rendre gloire, pour que nous puissions recevoir la lumière de Jésus-Christ, cette vraie berger, cette vérité. Seigneur, ôte de nous, de nos pensées, devant nous-mêmes, des personnes, des idées qui peuvent nous séduire, des choses qui peuvent nous attirer, Seigneur, loin de toi. Que nous puissions te rendre gloire et admiration à toi seul, Seigneur Jésus et notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.